La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. Ce soir, alors que la très discutée proposition de loi relative à la sécurité globale a été modifiée puis adoptée il y a quelques jours malgré une forte opposition, Léo fait le point avec Bastien Lequérec, membre de la Quadrature du Cercle, association de défense et des promotions des droits et des libertés. On écoute ça sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
Fin 2020, des députés de la majorité La République En Marche déposaient à l'Assemblée nationale une proposition de loi dite de sécurité globale. Les réactions ont été nombreuses. Des assos, des institutions, allant du Conseil de l'Europe à l'ONU en passant par le Défenseur des droits, s'étaient levés pour dénoncer de profondes atteintes à certaines libertés fondamentales. Dans de nombreuses villes, des cortèges se sont formés pour montrer également leur opposition au texte. L'article 24, qui compte interdire la diffusion d'images de forces de l'ordre s'il y a intention de nuire à l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé, était largement repris dans les slogans et dans la presse. On a un peu perdu le fil du texte entre deux conférences de presse dédiées à la situation sanitaire. Il était question de réécrire cet article, d'attendre l'avis du Conseil d'État. Le texte modifié a été récemment adopté au Sénat, puis adopté à l'issue de la commission mixte paritaire qui s'est déroulée il y a quelques jours. On fait tout de suite le point avec Bastien Lequérec, membre de la Quadrature du Net. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour discuter d'un texte législatif qui a beaucoup fait parler de lui. Mais d'abord, je te propose de revenir sur la Quadrature. Il s'agit d'une association indépendante de défense des libertés fondamentales dans le numérique. Elle lutte contre la censure et la surveillance des acteurs publics ou privés, notamment l'État et les entreprises. Créée en 2008 par 5 militantes et militants opposés à la loi Hadopi, elle compte aujourd'hui 21 membres et œuvre pour un Internet libre, décentralisé et émancipateur. Qu'est-ce qui se cache plus concrètement derrière ces trois mots libre, décentralisé et émancipateur ?
L'idée de la Quadrature, c'est de faire la promotion d'Internet comme un outil pour libérer les personnes, pour se défaire de l'emprise des entreprises, des États. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure des années, on s'est très largement éloigné de l'esprit fondateur d'Internet. On a vu beaucoup plus de centralisation, une utilisation d'Internet par l'État et par les entreprises pour asseoir justement leur contrôle. Au fur et à mesure des années, la Quadrature a élargi ses champs d'action pour notamment sortir d'Internet, même si le nom reste la Quadrature du Net. Aujourd'hui, on a une activité beaucoup plus large où on va s'intéresser à la surveillance, à la technologie de manière générale, plus largement que la question stricte d'Internet.
La Quadrature travaille avec d'autres associations dans des domaines variés, par exemple la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, le Syndicat des avocats de France. Tu as des exemples de travaux, de luttes que vous avez pu mener en commun ?
Sur cette proposition de loi sécurité globale, on va très probablement continuer nos collaborations avec ces différentes organisations pour, devant le Conseil constitutionnel, déposer une ce qu'on appelle une porte étroite, c'est-à-dire un texte juridique qui indique au Conseil constitutionnel pourquoi nous pensons que le texte qu'il sera amené à analyser et à contrôler nous paraît contraire à la Constitution. Ça fait partie des exemples de travaux communs. Depuis 2015, autour de l'Observatoire des libertés numériques, on travaille avec toutes ces associations pour justement mettre en commun nos énergies et nos capacités dans chaque organisation pour lutter contre cette surveillance. Et c'est vraiment en 2015 que cette question de la surveillance a particulièrement émergé et où on a commencé à travailler très sérieusement avec beaucoup d'autres organisations.
L'une des principales actions justement de la Quadrature du Net, c'est produire des plaidoyers politiques et juridiques à destination des parlementaires, des juridictions ou du Conseil constitutionnel, comme tu viens de le dire. C'est une forme de lobbyisme ?
C'est pas un lobbying au sens où nous défendons non pas un intérêt privé individuel d'une entreprise ou d'un groupe d'acteurs, mais nous défendons l'intérêt général. C'est vraiment la grosse différence entre du lobbying et du plaidoyer, c'est que nous avons une vision qui n'est pas celle de défendre les avantages de certains ou certaines contre d'autres, mais vraiment de vouloir améliorer la société, améliorer les conditions d'exercice des libertés, défendre ces libertés, et là il s'agit de tout le monde est concerné. concernés et non pas seulement une poignée d'acteurs. Donc c'est vraiment la grosse différence. Il n'y a pas de vocation commerciale ou de défense d'un groupe particulier d'intérêt. Il y a une vision très universaliste à travers notre action et c'est pour ça qu'on parle de plaidoyer.
Y a-t-il des groupes politiques peut-être plus sensibles que d'autres à justement ces plaidoyers ?
Historiquement, on a eu des soutiens de tous les échiquiers politiques. La quadrature fait de la politique, ça c'est quelque chose qu'il faut admettre. En revanche, la quadrature n'a pas une activité partisane. On est totalement déconnecté d'un quelconque parti. Certains partis vont plus que d'autres se retrouver dans nos idées, mais c'est globalement assez large sur beaucoup de sujets. On peut être d'accord avec une partie de ce que dit la droite, la gauche, le centre, sans raisonner en matière de parti. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre parce que c'est une activité politique qu'est la quadrature, mais sans s'enfermer dans un quelconque parti et ces logiques partisanes qu'on retrouverait derrière.
Est-ce qu'il y a des textes de loi vraiment controversés sur lesquels vous avez particulièrement travaillé ? Je pense par exemple à la loi portée par la députée Laetitia Avia contre la haine en ligne ou peut-être également les lois de lutte contre le terrorisme.
En 2013-2014 et ça s'est terminé en 2015 vraiment à l'apogée de cette série de luttes antiterroristes, on s'est effectivement pas mal battu contre un empilement de textes qui visaient à restreindre, contraindre tout un chacun. Récemment, effectivement, le texte sur la loi Avia est un exemple assez intéressant de comment est-ce qu'on s'est opposé à la mise en place d'une censure quasiment automatique en fait par les grandes plateformes et de renforcement du pouvoir de ces grandes plateformes. Mais de manière plus large, en fait, on va aussi s'intéresser à des textes qui sont peut-être moins médiatisés ou alors médiatisés sur l'instant. Et nous, on aura un combat de long terme. Fin mars, on avait par exemple une audience devant le Conseil d'État sur une affaire qui a commencé il y a presque un an, qui s'appelle l'application Jeune Note. Le Conseil d'État devrait rendre courant avril sa décision. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit en 2020, quand le texte a été adopté. Nous, on a continué le combat devant les tribunaux, d'autres associations ont également fait ça, et on a vraiment une multitude de dossiers qui sont pas forcément très médiatisés, ou alors sur l'instant, parce que l'objectif, c'est vraiment de défendre de manière générale les libertés, y compris lorsque c'est quelque chose qui fait pas forcément parler de soi, mais qui nous paraît très important de s'en occuper.
L'année 2020, à ce titre, s'inscrit pleinement dans les mois et les années précédentes, placée sous le signe de la restriction des libertés. Le 20 octobre 2020, l'Assemblée nationale a examiné la proposition de loi dite de sécurité globale. On a beaucoup parlé de l'article 24, mais je te propose peut-être également qu'on revienne ensemble sur d'autres articles. L'article 21 concernait l'utilisation des caméras mobiles par les forces de l'ordre. Le 22, l'utilisation des drones pour surveiller les manifestations. Et l'article 24, enfin, prévoyait de restreindre la diffusion des images des forces de l'ordre au cas où ces images porteraient atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dès le début, la quadrature s'est positionnée contre ces articles.
Ce qu'on dénonce à travers ces articles, mais de manière plus générale à travers ce texte, c'est qu'il s'agit d'une proposition de loi donc d'origine parlementaire qui vise à renforcer les pouvoirs de la police. Et en réalité, lorsque l'on regarde qui défend ce texte au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat, on s'aperçoit que c'est un texte qui a été écrit par la police et qui est fait pour la police. Et ces articles autour du renforcement des capacités de surveillance, que ça soit avec des drones, avec des caméras mobiles, que ça soit l'élargissement de l'accès aux caméras de vidéosurveillance, tout ça cache en réalité un objectif derrière qui est de surveiller les moindres faits et gestes sur la voie publique et même maintenant de plus en plus dans la voie privée. C'est vraiment avoir un État qui assoit son contrôle sur les populations à travers la technologie qui est là, c'est la vidéosurveillance, c'est les caméras mobiles, c'est derrière les technologies qui vont pouvoir analyser ces images qui sont captées. Le texte ne parle pas en soi de reconnaissance faciale, sauf que lorsque l'on interconnecte les images avec d'autres fichiers de police, et notamment un fichier de police très connu qui s'appelle le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, on se retrouve à démultiplier les capacités technologiques intrusives, et notamment la reconnaissance faciale, puisque, je le rappelle, le traitement des antécédents judiciaires, c'est un fichier de police qui concerne les mises en cause, les victimes, les témoins, donc énormément de personnes. C'est un fichier qui comporte beaucoup d'images des personnes qui ont une fiche dans ce fichier, et sur ces images, on peut, nous dit la loi, faire de la reconnaissance faciale pour repérer une personne. Et lorsque l'on interconnecte ces images, lorsque l'on crée de nouvelles sources de capture d'images, inévitablement, derrière, l'objectif, c'est d'utiliser ces technologies comme la reconnaissance faciale pour finalement mettre fin à l'anonymat sur la voie publique et toujours être en capacité de détecter les personnes, soi-disant prévenir des troubles à l'ordre public. Et en réalité, c'est vraiment une vision très sécuritaire de la société que l'on refuse, nous, à la quadrature, non seulement parce qu'on estime qu'il n'y a pas de nécessité. Nos sociétés modernes, globalement, sont assez sécurisées, mais c'est aussi parce que derrière, la police demande tous ses pouvoirs, elle voit que la technologie est là, elle voit qu'elle pourrait les utiliser, et c'est pour cela qu'elle demande à ce que la loi soit changée. L'exemple des drones est très topique, puisque les drones étaient utilisés pour surveiller les manifestations depuis au moins 2016 et très probablement depuis déjà 2014. Et avant que la Quadrature du Net fasse interdire les drones à deux reprises à Paris en 2020, puis que la CNIL mette définitivement un terme en les interdisant sur tout le territoire, finalement, ces drones étaient utilisés dans l'illégalité. La loi Sécurité Globale vient légaliser ce qui, auparavant, était illégal. Et on voit très bien que c'est une validation a posteriori des pratiques de la police, parce que la police demande à ce que l'on renforce, à ce que l'on consolide sa pratique indépendamment de toute considération en matière de liberté publique.
Et concernant les données qui ont été accumulées par les drones lors des manifestations précédentes, c'est-à-dire avant la validation de la loi de sécurité globale par la CMP, qu'en est-il de ces données? Elles vont être conservées ou elles vont être supprimées car jugées illégales avant l'examen du texte?
C'est très difficile de le savoir. La préfecture de police à Paris avait affirmé qu'elle ne faisait pas d'enregistrement. Nous, on avait souligné le fait qu'elle était en capacité de le faire. Le Conseil d'État, lorsqu'il a annulé les décisions de la préfecture de police de mettre en place des caméras de vidéosurveillance, n'a pas prononcé spécialement d'injonction de supprimer les données qui auraient été enregistrées. Dans tous les cas, à partir du moment où ces drones étaient utilisés de manière illégale, les données qui ont été utilisées théoriquement, évidemment, ne devraient pas être conservées s'il y a eu des enregistrements, ni même transférées dans d'autres fichiers, etc. Là, c'est vraiment du ressort de la CNIL de faire ces contrôles. Elle en a les pouvoirs pour le faire, et il n'y a pas d'informations particulières sur le sort des images qui ont été captées jusqu'à présent.
Tu l'as dit dans ta réponse précédente, ce texte, il a été élaboré par et pour la police. Et effectivement, au-delà du fond du texte, la Quadrature a relevé des éléments qui méritent interrogation, notamment à l'Assemblée concernant les rapporteurs du texte, qui étaient Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, et Alice Toureau. Vous avez également dénoncé la précipitation avec laquelle le texte a été examiné. D'après vous, l'examen a été bâclé, biaisé?
L'examen n'a pas été ni bâclé ni biaisé. En revanche, le gouvernement, alors qu'il s'agissait d'une proposition de loi, c'est-à-dire d'origine parlementaire, a fait sien ce texte. C'est-à-dire que, traditionnellement, la plupart des textes de loi sont d'origine gouvernementale. C'est ce qu'on va appeler des projets de loi. C'est le gouvernement qui propose un texte aux deux chambres et il a un temps de parole dédié sur lequel il va inscrire ses projets de loi. Ici, sur le temps de parole du gouvernement, il a inscrit une proposition de loi, cette proposition de loi sécurité globale. C'est-à-dire que le gouvernement défendait tellement bien le texte, se l'appropriait tellement que il s'est permis d'inscrire ce texte dans les semaines de débat réservées au gouvernement, et donc il a décidé que c'était un texte qui méritait d'être rapidement débattu parce que les temps de parole réservés aux propositions de loi en général sont assez petits et donc une proposition de loi prendra beaucoup plus de temps qu'un projet de loi à être adopté. Ici, c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Le gouvernement et en particulier Gérald Darmanin a énormément défendu le texte, savait déjà d'avance comment ce texte serait appliqué, donc on voit qu'il y a eu un travail de fond et très probablement une collaboration entre les rapporteurs à l'Assemblée nationale et le cabinet du ministre pour améliorer le texte dans le sens que voulait le gouvernement. Il y a vraiment un travail main dans la main entre le gouvernement et particulièrement le ministère de l'Intérieur et les rapporteurs de ce texte pour avoir un texte qui corresponde à la vision sécuritaire que veut défendre le gouvernement et qui approuve entièrement Monsieur Fauvergue, Madame Toureau, mais également tous les députés et sénateurs de la droite et de La République En Marche qui ont voté pour ce texte, parce que il faut aussi le souligner, la droite sénatoriale qui se dit en opposition par rapport à La République En Marche partage énormément d'objectifs politiques de ce texte, et le Sénat n'a absolument pas atténué ce texte. Au contraire, sur certains points, il l'a très méchamment renforcé. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez inquiétant, puisque aujourd'hui on a un texte qui met d'accord la droite sénatoriale, de manière générale la droite, La République En Marche, le gouvernement, à peu près tout le monde sauf à gauche de l'échiquier politique, mais qui est en minorité. Et donc on a une Assemblée nationale qui effectivement a servi de chambre d'enregistrement, mais on a un Sénat qui a énormément renforcé le texte, qui lui a donné des garanties supplémentaires contre une censure par le Conseil constitutionnel, sans retirer les éléments problématiques qui avaient été dénoncés depuis le début par les organisations qui sont contre ce texte.
Comment le texte a pu faire fi de tous les avis défavorables émis à son encontre ? Il y avait tout de même, en plus des dizaines d'associations, le Conseil de l'Europe, l'ONU, et le tout dans un contexte où les violences policières ont augmenté et ont été également beaucoup plus diffusées.
C'est très difficile d'analyser pourquoi, mais on peut aussi citer la Défenseure des droits, on peut citer toutes les organisations qui sont dans cette coordination contre la loi sécurité globale qui s'est montée en novembre 2020. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, qui pourrait s'expliquer de plein de manières, et j'ai pas envie de m'avancer parce que ça relève plus du doigt mouillé qu'autre chose. En tout cas, il y a un véritable accord politique entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur les objectifs de ce texte. Le Sénat n'a absolument pas remis en question la volonté de légaliser les drones, la volonté de permettre à plus de personnes d'accéder aux caméras de vidéosurveillance. Le Sénat n'a pas non plus remis en question la criminalisation de la prise d'image de fonctionnaires de police. Donc tout ça, c'est vraiment inquiétant parce que on a deux chambres qui sont totalement alignées dans une vision très sécuritaire, très droitière de ce que doit être la société, et évidemment ça se fait au détriment des libertés les plus fondamentales.
Il y a également un soutien qu'on pourrait dire important qui ne s'est pas joint aux associations opposées au texte, c'est la CNIL. Comment ça se fait que la CNIL n'a pas défendu la position, en tout cas de la Quadrature et des autres assos opposés au texte? C'est la première fois que la CNIL et la Quadrature défendent des positions différentes?
Sans que ça soit la première fois que la CNIL et la Quadrature ont des positions différentes, ici la CNIL a particulièrement montré à quel point elle veut encourager le gouvernement à poursuivre ses objectifs sécuritaires. Ici, la CNIL a vraiment montré que son objectif, c'est d'accompagner le gouvernement et pas du tout de remettre en question ses objectifs, de remettre en question ses politiques sécuritaires. Au contraire, la CNIL, on l'a dénoncé à la Quadrature du Net lorsqu'elle propose une expérimentation des drones. Non seulement elle oublie que ces drones ont été expérimentés illégalement, certes, mais ont quand même été expérimentés depuis 2016 au moins, que à aucun moment les drones ont démontré une quelconque utilité, une quelconque nécessité, et également, elle contredisait les textes européens et français qu'elle est censée faire appliquer autour des données personnelles. C'est quelque chose qui nous a non seulement surpris, parce que ce n'est pas le rôle de la CNIL, mais également agacé parce que la CNIL est rentrée dans un débat politique qu'elle ne devrait pas avoir, ou en tout cas qu'elle a depuis le début refusé d'avoir. Depuis le début, la CNIL dit que elle n'est pas là pour approuver tel texte, telle disposition, etc. Mais ici, sur les drones, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a approuvé le principe de drone en donnant une clé de sortie de cette impasse autour de la légalité des drones, une voie de sortie qui nous paraissait contraire au droit, mais en tout cas c'est ce que proposait la CNIL avec son expérimentation. Et lorsque l'on regarde comment la CNIL a été créée, son histoire, son historique, c'est assez inquiétant de voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, parce que alors que la CNIL a été créée autour de scandales, autour des fichiers, autour du pouvoir de l'État, autour du fichage que voulait imposer l'État à travers la création de fichiers et l'utilisation de l'informatique, ici on a une CNIL qui était totalement défaillante, il faut le dire, qui vraiment accompagnait et servait de conseil du gouvernement et pas du tout de protectrice des textes qui sont censés protéger le droit à la vie privée ou le droit aux données personnelles. On le retrouvait historiquement depuis plusieurs mois, voire années. On sentait vraiment que la CNIL, elle était très réticente à s'opposer au gouvernement sur certains dossiers. On a été assez surpris de voir qu'elle n'agissait pas et qu'elle donnait des avis assez légers sur des textes réglementaires ou législatifs. Ici, elle était non seulement très légère, mais en plus, elle allait vraiment dans le sens sécuritaire que l'on dénonce, nous, depuis le début. Et il faut vraiment accepter, nous, on estime que c'est le cas à la Quadrature, il faut vraiment accepter que la CNIL n'est pas un garde-fou, ou en tout cas, est un garde-fou qui, aujourd'hui, est défaillant.
On se retrouve finalement, pour synthétiser, face à un bloc d'entente entre l'exécutif, l'Assemblée nationale, le Sénat et la CNIL, dans lequel la contradiction n'a pas forcément sa place.
Ce qui est embêtant, c'est que la CNIL ne devrait pas être dans ce bloc. Elle devrait au contraire avoir une vision légaliste, une interprétation des textes, ce qu'elle n'a absolument pas fait lorsqu'elle a présenté son avis à la commission des lois au Sénat. Son avis était très léger juridiquement et sur cette question de l'expérimentation des drones était, nous le pensons à la Quadrature, totalement en contradiction avec les textes qu'elle est censée faire appliquer.
Le texte qui a été adopté à l'Assemblée et transmis au Sénat ne s'appelle plus loi de sécurité globale. On est passé à une proposition de loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés, mais le fond du texte est toujours là.
Le fond du texte est toujours là, l'objectif politique de renforcer le contrôle de la police est toujours présent. On a également de nouvelles dispositions qui ont été rajoutées par le Sénat en séance publique, notamment la mise en place de caméras de vidéosurveillance dans les centres de rétention administratifs. Donc des personnes qui sont retenues, non seulement sont privées d'absolument tout, en dehors de tout contrôle d'un juge, mais en plus, on leur retire la dernière bribe de vie privée qu'ils pourraient avoir. C'est vraiment une négation de l'être humain. Et c'est quelque chose qui reflète l'état d'esprit au Sénat, qui est de vouloir s'attaquer aux personnes les plus faibles avec une technologie de plus en plus intrusive et de refuser de discuter de la moindre remise en question de ce principe. L'opposition au Sénat au moment de la discussion de l'introduction de caméras de vidéosurveillance dans les centres de rétention administratifs, disait on ferait mieux de dédier ce budget à l'amélioration des conditions des personnes détenues. Effectivement, la France se fait régulièrement condamner par les juridictions nationales, par les juridictions internationales, ne fait rien, mais la droite au Sénat préfère mettre des caméras de vidéosurveillance dans les cellules plutôt que d'améliorer ce qui devrait être la base de la condition de vie humaine digne. Et donc on voit vraiment que on est dans un tout sécuritaire au point même d'aller nier la moindre dignité aux personnes humaines.
Dernière question, lorsque la commission mixte paritaire se sera prononcée sur le texte, quels seront les recours possibles à déposer, le Conseil constitutionnel, la CJUE ou même la Cour européenne des droits de l'homme ?
Maintenant que la commission mixte paritaire s'est mise d'accord sur un texte, une fois que le texte sera publié, il sera transmis aux deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. Celles-ci ne pourront plus modifier le texte. Il n'y aura plus de possibilité d'amendement de ce texte. Elles ne pourront plus que l'adopter ou le rejeter. Vu l'historique, évidemment que ce texte sera adopté très largement dans les deux chambres. Et une fois que ce texte sera adopté dans les deux chambres, Il devrait passer devant le Conseil constitutionnel, au moins sur l'article 24, puisque Jean Castex l'avait annoncé l'année dernière qu'il saisirait sur cet article le Conseil constitutionnel. Si 60 députés ou 60 sénateurs, sénatrices saisissent le Conseil constitutionnel, il y aura également sur d'autres articles un contrôle dit a priori, c'est-à-dire avant que la loi entre en vigueur par le Conseil constitutionnel. À ce moment-là, la Quadrature, mais également plein d'autres associations, on déposera ce qu'on appelle une porte étroite, qu'on appelle parfois aussi contribution extérieure, c'est-à-dire que l'on écrira au Conseil constitutionnel, tout simplement, pour lui expliquer pourquoi, selon nous, ces dispositions sont contraires à la Constitution. Si le Conseil constitutionnel estime malgré tout qu'elles sont conformes à la Constitution, au moment des décrets d'application de ce texte, il y aura la possibilité de saisir le Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction administrative française, mais également par des mécanismes contentieux, éventuellement de se retrouver devant la Cour de justice de l'Union européenne. Tout ça, c'est quelque chose qui quand même traduit l'échec de ce plaidoyer citoyen, parce que aller voir les juges, c'est parce qu'on n'a pas réussi à faire entendre notre voix devant le législateur. Ça prendra également beaucoup de temps, aller devant le Conseil d'État. Il faut attendre que les décrets d'application soient publiés. Ensuite, il faut compter plusieurs mois, voire années de procédure. Si on va devant la Cour de justice de l'Union européenne, il faut encore compter plusieurs années. Donc, entre-temps, le texte sera appliqué et ce serait une solution qui serait très largement satisfaisante.
Merci Bastien d'avoir répondu à nos questions. De mon côté, je vous invite à découvrir les autres travaux de la Quadrature du Net sur leur site internet ou sur les réseaux Facebook, Twitter. On compte évidemment sur vous pour continuer à suivre le devenir de ce texte aux mains du Conseil d'État ou d'autres juridictions. Retrouvez également notre émission du 30 novembre 2020 consacrée à la mobilisation angevine contre ce texte. Au revoir Bastien.
Merci, au revoir.
Les Radio Campus présentent
Ostrikoni, le premier album de Yéman.
Vegetação salva-me em natureza. Ouvi com atenção, ouve o som da cachoeira. Escute o canto do passarinho e a voz da mãe terra. Ela só fala baixinho. Thank you.
À l'instant, c'était Yeman avec Aluna Project pour le titre Baichi Baichi. Il est quant à nous déjà l'heure de nous quitter. On se retrouve demain soir. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus.